La première chose la plus importante et qui paraît étonnante, c'est que cet événement ait eu lieu, l'événement de la naissance de Jésus. Et l'écrivain biblique, pour nous le faire comprendre, pour nous dire que ce n'est pas un symbole, que ce n'est pas une histoire qu'on raconte comme ça au coin du feu, comme la légende de Gilgamesh ou autre chose, ce n'est pas un mythe, c'est vraiment une histoire qui est arrivée, quelque chose qui est arrivé, avec une vraie Sainte Vierge, un vrai Joseph, un vrai enfant Jésus dans une vraie crèche. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas d'âne et il n'y a pas de bœuf. Ça, c'est la légende qu'il raconte après. Mais c'est arrivé parce que, justement, l'écrivain biblique veut nous faire comprendre ça. Alors il nous dit, un édit de l'empereur Auguste, le bien nommé, ordonnant de recenser toute la terre, lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Vous voyez, on précise les choses dans l'histoire pour nous dire que l'existence de Jésus est un fait historique avéré. Voilà. Et ça, ça doit être la base de notre histoire, la base du décor, le contexte historique ici est super important parce que c'est la réalité sur laquelle va se baser quelque chose de plus grand encore. Mais pour ça, pour découvrir ce que le Seigneur veut nous montrer de plus grand que simplement la naissance d'un enfant, d'une femme et d'un homme, Joseph et Marie, donc bien répertoriés sur les listes, hein, le recensement était prévu à Bethléem. Alors, le recensement, c'est à chaque changement d'autorité, c'est tout simplement pour gagner l'argent qui est nécessaire de gagner, vous savez. On recense pour toucher l'impôt. Normal. C'est vrai. Et vous voyez, Joseph et Marie entrent dans cette vie. Ils n'échappent pas à la vie quotidienne des gens de leur pays. Ils vont à Bethléem. Et vous verrez dans un instant, même le nom de cette ville a un sens incroyable. Alors comment est-ce que le Seigneur va s'y prendre pour nous faire comprendre ce mystère de Noël? Première chose importante, enfin deuxième chose importante, c'est que ça se passe la nuit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs. Et moi, je me suis toujours imaginé que les bergers étaient devant la crèche, vous voyez, comme un jardin anglais devant une maison, devant un château, devant je ne sais pas quoi. En fait, non, ils sont répartis autour de la crèche. Probablement que si on parle des bergers, on peut imaginer que la nuit, ils se sont rassemblés, qu'ils sont autour d'un feu, puis qu'ils sont en train de discuter. Mais des bergers, vous voyez, des bergers qui ne courent pas derrière le bon Dieu, les bergers. Ils sont là, ils font leur métier de berger. Et on ne leur demande rien aux bergers. La figure des bergers, pour moi, c'est chacun d'entre nous. Mais dans ce qu'on a de plus simple. Alors bien sûr, vous avez les sœurs. Vous savez, les sœurs qui sont là. Alors elles, on a presque l'impression qu'elles ont toujours été sœurs, qu'elles sont saintes. Presque. Mais les bergers font leur job. Les bergers, ils sont là, comme nous, dans notre métier, dans notre famille, à courir après un job, à courir après une reconnaissance, à courir après, tout simplement, à vivre pour gagner notre vie, parfois difficilement, parfois facilement, avoir des amis, s'occuper de ses parents, s'occuper de ses frères et sœurs, s'occuper de ses enfants. Peut-être que certains d'entre nous ont une charge plus difficile, plus lourde. Peut-être qu'ils ont en charge le destin d'une ville, le destin d'une nation, le destin d'un groupe d'hommes. C'est le cas de certains d'entre nous qui portent lourd. Mais au fond, ils sont comme les bergers, ils sont autour du feu. Et comme je disais, quand on dit souvent avec mes frères, ben on tape la discute, quoi. On dit n'importe quoi, on passe le temps. Il y a une banalité incroyable dans ce moment-là. Je ne sais pas si vous le sentez. C'est extrêmement banal. Encore une petite, un petit détail, mais qui est amusant. J'en parlais avec Pélagie ce matin, qui poussait des hurlements de découvrir ce que je lui ai dit. J'étais déjà en train de préparer le sermon. Je lui ai dit, vous savez, Pélagie, que Jésus, il n'est pas né en décembre. Elle m'a dit, ah bon, il n'est pas né en décembre, Jésus. Je lui ai dit, bah non. S'il y a des bergers, il y a des moutons. En général, les deux, ils vont ensemble. Hein. S'il y a des moutons, bah, il y a de l'herbe. Et vous savez qu'en terre simple, bah, il n'y a plus d'herbe à partir du mois de septembre, octobre. Parce que tout a été brûlé pendant l'été. Tous ceux qui habitent dans les pays du Moyen-Orient, ils le savent par cœur. L'herbe, elle est brûlée, quoi. Il n'y a plus rien. Alors, il faut remonter un peu le calendrier. Quand est-ce qu'il y a eu de l'herbe pour la dernière fois? Ou quelque chose à manger pour les moutons? Ben, mi-août. Parce que c'est la deuxième moisson. Il y avait deux moissons. Et donc, probablement, désolé de vous décevoir, tous ceux qui attendent un Noël avec de la neige, comme Sœur Marie-Bernadette attend de temps en temps un nuage, un Noël avec de la neige, ça ne sera pas encore cette fois-ci, Sœur Marie-Bernadette. Ben, c'était au mois d'août, et il faisait chaud. Et on comprend que les bergers soient dans les champs autour du feu. Peut-être qu'ils fument une pipe, peut-être que... voilà. Et dans cette banalité extrême, Dieu vient à eux. Parce que quand dans l'Écriture on parle d'ange, c'est pas seulement un truc avec des ailes qui vient vous voir. Hein. Quand on parle d'ange, ce sont des messagers somptueux qui sont envoyés par Dieu, et c'est comme si Dieu parlait directement aux bergers. Donc Dieu descend dans les champs, et vous voyez, Dieu ne se contente pas avec ses anges de protéger la Sainte Vierge, d'être autour de la crèche, de faire un truc un peu waouh, quoi. Ben, c'est vrai, c'est le Fils de Dieu qui vient de naître. On pourrait imaginer que les anges, ils seraient plutôt là. Mais non, ils vont dans les champs, les anges, et vont voir les gens tout simplement, quoi, les bergers. En fait, ils viennent nous voir, chacun d'entre nous. Et le message, il est simple. Dans la nuit que tu vis, la nuit de ta souffrance, la nuit de tes angoisses, de tes difficultés, dans toutes tes formes de nuit, moi, le Seigneur, ton Dieu, je viens te voir. T'as rien à faire, t'as rien à comprendre, t'as pas de catéchisme à suivre. Les bergers, ils n'avaient pas fait le cathé. Ils étaient là, comme vous êtes là. Et l'ange vient les visiter. La gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Est-ce que c'est possible, ça, pour nous? Mais bien sûr, c'est possible. Alors, peut-être pas de façon physique, peut-être qu'on ne va pas voir la lumière du Seigneur nous envahir, mais cette même lumière, ce même contact avec le Seigneur, on va tous pouvoir le vivre, tous, ce soir. Comment on va faire? Comment ça va se passer? Mais quand on va manger, Jésus est déjà, en se laissant aller dans la prière, vous voyez, on a déjà commencé par ces chants incroyables, par cette musique qu'on a entendue, on se laisse enveloppé par quelque chose de très très doux, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'extérieur de ce bâtiment. Pensez trois secondes à ce qui peut se passer à l'extérieur. La ville de Paris qui bouge dans un sens, hein, les gens qui font la fête, tout ça c'est bien, mais la gloire du Seigneur nous envahit, la gloire du Seigneur est autour de nous, et ça c'est une réalité, chers amis. Une réalité très profonde. Alors qu'est-ce que dit l'ange? Ne craignez pas. Ne vous inquiétez pas. Ça veut dire, tu vas voir, là, maintenant, tout de suite, dans les minutes qui viennent, si tu te laisses aller encore un peu plus dans la liturgie, si tu acceptes que le Seigneur vienne te voir, te combler, tu vas voir. Moi, le Seigneur, ton Dieu, je vais faire renaître en toi ce que j'ai déposé le jour de ton baptême. Je vais renouveler en toi ma grâce. Je vais renouveler en toi les dons du Saint-Esprit. Je vais inonder ton être de paix, si tu le veux bien. Car voici que je vous annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur. Et voici le signe qui vous est donné. Et ça, les amis, c'est quand même étonnant. Le signe qui nous est donné un sauveur, c'est un bébé de 5 cm, de 50 cm. Le signe qui nous est né un sauveur, c'est un bébé de 50 cm. Moi, je serais le berger, j'aurais dit, mais tu peux pas m'expliquer un peu plus les choses, parce qu'un bébé de 50 cm, comment est-ce qu'il peut être un signe? Ben, l'ange nous dit, mais va voir. Vas-y, va voir. Va voir le bébé de 50 cm, tu vas voir ce qui va t'arriver. Vas-y, rapproche-toi. En fait, ce qu'il nous faut, c'est un acte de foi. Vous voyez, c'est d'accepter que l'ange nous dise, ben, c'est d'accepter de faire ce que l'ange nous dise. C'est de dire, ben oui, j'accepte de voir ce bébé de 50 cm sans comprendre pourquoi il est emmailloté. Ben, c'est le signe de la croix qui vient. Déjà, le signe de la croix est là, présent. Et Dieu veut qu'on comprenne tout de suite qu'il n'a pas envoyé son Fils juste pour nous faire plaisir. Il a envoyé son Fils pour nous délivrer, pour nous enlever quelque chose de notre être. Vous voyez ? Comment ce bébé va pouvoir enlever quelque chose qui m'empêche de vivre ? Il y a quelque chose qui est voilé là. Alors il faut faire comme les bergers, continuer à les observer, ces bergers. Ils se sont tous dirigés vers la crèche. Donc combien ils étaient ? Je ne sais pas, j'imagine 4, 5, 6. On les imagine habillés très simplement. En même temps, il fait chaud, donc pas de manteau. Oubliez les écharpes, oubliez la laine, oubliez tout ça. Ils sont enveloppés dans du tissu avec une ceinture. Et puis surtout les bergers qui arrivent près de la crèche, il y a tous les moutons qui ont dû les suivre. Ça c'est sûr, ça devait gueuler un peu, ça devait sentir le mouton. Et ils s'inclinent. Qu'est-ce qu'ils comprennent ? À mon avis, pas grand-chose. Avec leur intelligence, ils ne comprennent pas grand-chose. Mais est-ce qu'on comprend quelque chose à la musique de Mozart ? Est-ce qu'on comprend quelque chose à Heindel ? Est-ce qu'on comprend quelque chose à l'expression de ce qui est le plus beau ? On ne comprend pas, toujours. On participe, oui, mais on ne comprend pas. On participe, mais on ne comprend pas. Nos musiciens là-haut, quand ils jouent de la musique, ils tiennent dans leurs mains un mystère auquel ils nous font participer. Est-ce qu'on la comprend, cette musique ? Non, mais on peut y avoir accès. On peut tous y avoir accès, et ça nous fait tellement de bien. Avec Jésus, c'est pareil. Il est là, dans l'Eucharistie. Je peux y avoir accès en acceptant sa présence. Je vous ai dit que je vous en reparlerai, mais vous vous souvenez du nom de la ville, Bethléem. Vous savez pourquoi ça s'appelle Bethléem ? C'est un vieux nom, hein. David, déjà, au temps de David, ça s'appelait Bethléem. Bethléem en hébreu, ça veut dire la maison du pain. Tiens, tiens, tiens. Jésus, dans une mangeoire, dans une ville qui s'appelle la maison du pain. Chers frères et sœurs, vous voyez que le Seigneur prend soin de nous. Il nous montre des panneaux indicateurs. Il nous montre qu'en fait, Jésus, il va venir sous la forme du pain. C'est exactement ce qu'on va faire dans 2 minutes. Mais alors, il vient sous la forme d'un enfant ou sous la forme du pain? Bah, il est venu sous la forme d'un enfant de 50 cm. On peut méditer cette vérité, mais aussi aujourd'hui, au jour de Noël, on ne fête pas l'anniversaire de Jésus, ça c'est un mensonge, ce n'est pas l'anniversaire qu'on fête, mais on fête ce jour où Jésus est venu et où, quand je vais le manger, il va prendre mon péché sur lui. C'est pour ça qu'il me sauve. Parce que Jésus, il a pris tout ce qu'il y avait de mauvais en moi et il l'a dissous en lui. Et ça l'a fait mourir. C'est ça le mystère de Noël. C'est quelque chose de très très beau, c'est quelque chose de très mystérieux. Il y a plein d'étoiles, il y a plein de lumière. Ok, mais c'est aussi quelque chose de brutal. Parce que Jésus était dans la Trinité. Et il est venu parmi nous, dans notre chair, pour prendre sur lui ce qui nous empêche de vivre. Et c'est exactement ça que les bergers ont vécu. Quand les bergers se sont inclinés et qui se sont relevés, ce qui les empêchait de vivre dans leur cœur avait disparu. Et c'est pour ça qu'ensuite, ils vont partout dire ce qui leur est arrivé. La bonne nouvelle, c'est ça. La bonne nouvelle, c'est que Jésus vient enlever de ton cœur ce qui t'empêche de vivre, si tu l'acceptes. Et en plus, il vient renouveler en toi ta puissance de vie. Qu'est-ce qu'il faut être ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Juste faire comme les bergers, être là et accepter cette vérité au fond de ton cœur. Et Dieu était tellement heureux ce jour-là. Et Dieu aujourd'hui est tellement heureux que la vie rejaillisse dans chacun de nos cœurs, que les armées célestes autour des bergers se sont mis à se déployer. On n'imagine pas ça, on ne fait pas attention à ça, mais c'est bien ce qui a marqué dans l'Écriture. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux » et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Et vous voyez cette armée céleste, chers frères et sœurs, on ne l'entend pas si on tend l'oreille, si on tend cette oreille-là. On ne l'entend pas. Mais si vous fermez les yeux, si vous rentrez dans votre cœur, et Luc, je vais te demander 30 secondes de silence, si vous rentrez dans votre cœur, si vous acceptez ce mystère que Jésus est en train de renaître dans votre cœur, alors tendez bien l'oreille intérieure et observez bien avec les yeux de votre cœur et vous la verrez, l'armée céleste, parce qu'elle est là. Il faut la foi pour l'entendre et pour la voir et entendre la gloire de Dieu, c'est-à-dire la force de Dieu envahir ce que nous sommes. Amen.